Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Oui, s'il vous plaît, vous vous mettez en cercle, juste derrière les banderoles, les foulards. Au début de la marche, on avait chacun un foulard et on les a noués ensemble pour montrer comment on est reliés dans la vie. Donc, Compostelle Cordoue, donc cette association dont la devise c'est marcher, dialoguer, comprendre. Comme vous le voyez sur notre banderole, ça c'est une photo dans le désert de Judée.
Le vendredi 2 juillet, dans le cadre de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, nous aurons la joie d'écouter Gabrielle Nanchen, ancienne députée du Parlement suisse et cofondatrice de l'association Compostelle Cordoue. Pour ma part, je la rencontrai le 25 juillet 2019, tout près du village de l'Escout, dans le Tarn, là où les membres et les amis de l'association Compostelle Cordoue s'apprêtaient à reprendre la route. Dans un peu plus d'une heure, ils arriveraient au monastère bénédictin d'Akalkat, ultime étape d'une marche qui, commençait 3 jours plus tôt à Toulouse, les avait menés à Montauban, Labor, puis Laurent, à la rencontre d'eux-mêmes et de leurs frères et sœurs, catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, ou tout simplement chercheurs de sens. Tous frères et sœurs en humanité.
J'avais dit au tout début de la marche que celui qui nous donne l'élan, c'était la figure d'Abraham, qui nous dit « vas-y, lève-toi et marche ». Ensuite, j'avais évoqué le temps de la rencontre. On a eu, et de la fête. Hier, on a eu, en plus de la rencontre, une fête dans le château de Mangrain, je ne me souviens plus du nom exactement. Voilà, on a eu une fête totalement inattendue qui fait partie de la rencontre. C'était une pure merveille. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et maintenant que nous approchons de la fin, eh bien, il y a un temps où on va transporter, et Nanou va nous le faire vivre, transporter au-delà de ce qu'on vit en ce moment, transporter au-delà du présent et au-delà de l'espace, on va transporter ces valeurs. Ça veut dire que le cercle que nous formons, eh bien, il est indestructible et il va nous accompagner au-delà de l'ici et maintenant que nous avons vécu.
Créé en 2009, sous l'impulsion de quelques pèlerins de Compostelle, Jérusalem ou la Mecque, Compostelle Cordoue, association laïque franco-suisse qui fête cette année son 10e anniversaire, se veut être, dans l'esprit à la fois de Compostelle et de Cordoue, un pont entre les peuples, leur culture et leurs croyances. Une association qui répondait à une attente, une nécessité, une espérance, clairement ou non exprimée. Gabrielle Nanchen, l'une des cofondatrices qui, à l'occasion de ce 10e anniversaire, faisait cette marche en Occitanie.
Je crois que cette association est le fruit de rencontres. Plusieurs rencontres que je vais essayer de vous énumérer, pas trop longuement. Ma première rencontre, je crois, ça a été celle que j'ai faite le long du chemin de Compostelle. Je suis partie en 2001 et j'ai marché du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago, seule. Et là, ben, j'ai rencontré ce qu'on rencontre d'habitude, c'est-à-dire la nature dans sa beauté. J'ai rencontré les autres. Les autres pèlerins, ceux avec qui on apprend le bonheur de la réciprocité. Tu as une ampoule, je te donne un compi, de ma gourde est vide, tu me donnes à boire. On partage les joies et les peines du chemin. J'ai rencontré aussi les gens qui m'ont accueilli. J'ai appris à recevoir. Je me suis rencontrée moi-même. Quand on est seul 3 mois, on est obligé de s'apprivoiser. Avec ce qu'on a de bien, avec son courage, avec sa capacité de dépasser ses limites. Puis aussi avec toutes ces zones d'ombre, avec les cadavres qu'on cache dans nos armoires, on apprend à faire des deuils, à laisser couler ce qui mérite simplement de partir avec les larmes, et puis à garder le meilleur qui est la joie. J'ai découvert tout ça. Mais voilà qu'en arrivant à Saint-Jacques, à la cathédrale, j'ai rencontré bien sûr ce personnage dans sa chape dorée, à qui on va faire l'abrasso et l'abrasso à l'apostole. Hein. On va embrasser l'apôtre Jacques, comme tous les pèlerins. Et c'est seulement après que j'ai fait la rencontre qui m'a bouleversée et qui a changé ma vie. dans une chapelle latérale qu'on ne voit pas quand on entre, hein, dans l'enthousiasme d'être arrivé au bout du chemin, on ne la voit pas. Mais après, en prenant son temps de visiter, je l'ai vue. Dans une chapelle latérale, il était à cheval, tout vêtu de blanc, en brandissant une épée. Au pied de son cheval, il y avait des gens qui étaient déjà à moitié piétinés, et certains étaient décapités. Ce personnage brandissait une épée, et ces pauvres gens décapités, ils étaient colorés, hein, ils avaient la peau basanée, en plus certains avaient des turbans. Et c'était marqué Santiago Matamoros, de Santiago Saint-Jacques, Matar, tué, Moros, les morts, c'est-à-dire les musulmans, comme on les appelait à l'époque en Espagne. Donc là, mon sang a fait qu'un tour. J'ai jamais aimé être floué. J'étais très fâchée contre mes parents qui m'aient fait croire au Père Noël. Et là, tout à coup, tous ces gens, tous ces livres que j'avais lus sur Saint-Jacques, tous ces guides qui me parlaient de la ferveur des pèlerins pendant 1000 ans, qui allaient mettre leurs pas dans ceux d'un disciple de Jésus, homme de paix et d'amour. Ah ben non, c'était aussi autre chose. Saint-Jacques avait été un faiseur de guerre. Saint-Jacques avait été le porte-drapeau d'une guerre sainte. Celle que les souverains chrétiens ont appelée la reconquête. Alors bon, je me suis dit, ben l'histoire est ce qu'elle est. Hein. En Suisse, on a notre Guillaume Tell, il faut bien faire avec. Les Espagnols, ben, leur Santiago Matamoros, ils le mettent partout et ça les gêne absolument pas. Moi, ça me gênait beaucoup, alors j'ai voulu en savoir plus et j'ai écrit en consultant des sites internet, en lisant des livres. Et le hasard des rencontres, je mets un grand H au mot hasard, moi. Hein. Le hasard a fait que j'ai rencontré Louis Mollaret et Denise Péricard-Méa, qui sont des historiens. Louis est un grand pèlerin. Il est le compagnon de Denise, qui est historienne et qui écrit beaucoup de choses sur Saint-Jacques et les pèlerinages. Et par eux, j'ai rencontré Bartholomé Benassar, qui est un historien vivant à Toulouse, et qui m'a parlé, qui m'a raconté cette histoire du Matamoros, transformée ensuite en Mataindios, hein, quand les souverains chrétiens ont reconquis Grenade et que les musulmans sont repartis, ben on l'a transféré, hein, il a continué sa carrière, il est devenu le Mataindios en Amérique latine. Et puis Franco l'a récupéré aussi, il est devenu le Matarojos. Tout ça me gênait beaucoup, surtout que j'ai le cœur à gauche, moi. Donc voilà, alors dans ce livre qui s'appelle Compostelle de la Reconquista à la Réconciliation, j'essayais de dire, ben, l'histoire est ce qu'elle est, il y a eu des croisades, il y a eu l'Inquisition, il y a eu le Matamor. Ok, mais cette période est terminée, et maintenant on entre dans le 21e siècle, et il y a beaucoup de raisons de s'entendre avec le monde musulman. Le temps de la réconciliation est venu. Et nous autres pèlerins de Compostelle, on a peut-être une responsabilité particulière à cet égard. Et c'était un appel aux pèlerins, au Conseil de l'Europe qui a fait des chemins de Saint-Jacques, un itinéraire culturel. Voilà. C'était même un appel au Vatican.
Puis, hasard des rencontres, hasard avec un grand H, Gabriel Nonchen rencontre un grand marcheur devant l'Éternel, André Weil, d'ascendance juive. Puis un jeune scout, Bertrand Loz, et enfin un professeur musulman de physique médicale, Abou Sarwan. Ensemble, ils fondent l'association Compostelle Cordoue, et tout commence par un colloque.
Nous, on voulait juste faire un colloque sur Santiago Matamoros, et puis sur le mythe de Cordoue à l'Andalus. Parce que si ça s'appelle Compostelle Cordoue, c'est à cause de Abba Sarwan, notre premier musulman de l'équipe. Lui a dit, Compostelle, ça signifie peut-être des choses pour vous, ça incarne certaines valeurs auxquelles vous tenez très fort. Pour nous, ça ne veut rien dire du tout. Mais Cordoue, en revanche, ça veut dire beaucoup de choses. Si vous aimez l'Espagne, nous, c'est Cordoue qu'on aime. Et Cordoue veut dire le vivre ensemble, la convivencia. Juifs, chrétiens, musulmans, hein, au siècle d'or, ils ont réalisé des choses merveilleuses. Ok, alors allons-y. Et notre jeune scout a dit, on ne va pas arriver à Cordoue en train ou en avion quand même. On va y aller à pied. Donc voilà, la première marche, c'était de Compostelle à Cordoue, à contresens des pèlerins. Vous savez qu'il y a un chemin de pèlerinage qui va de Grenade, Cordoue, à Compostelle, la Via de la Plata, fréquentée par les pèlerins. Puis nous, on allait à contresens.
Donc vous avez ouvert une nouvelle voie, alors ?
Si vous voulez, mais on a été plus loin parce qu'une fois dépassé Cordoue, Eh bien, les gens, surtout les jeunes, des jeunes scouts, juifs, chrétiens et musulmans qui étaient à Cordoue à notre colloque, ont dit on va continuer, mais maintenant on va vers des lieux symboliques pour d'autres traditions. Donc l'année suivante, on a été à Moulay Abdesalam, au Maroc, pas très loin de Tanger, où là il y avait un pèlerinage soufi, on s'est joint au pèlerinage soufi. Et de fil en aiguille, chaque année, on allait dans d'autres régions. Mm-hmm. On a été au Liban, on a été en Palestine. On a été à Assise, on a été à Thésée, on a été dans les Côtes d'Armor l'année dernière au pèlerinage islamo-chrétien. Et voilà, on continue, enfin ils vont continuer parce que moi j'arrive un petit peu au bout de ma longue marche. Hein.
Oui, le chemin source de rencontre, comme vous dites, source de rencontre avec soi-même d'abord, avec les autres et puis avec le tout autre.
Avec le tout autre. Lors de ma première marche, j'avais vu dans une petite église, pas loin d'ici, c'était dans le Gers, je crois, un feuillet d'un carnet arraché, épinglé, contre la porte de l'église, et c'était marqué « Pèlerin, il va, sans armes et sans armure, à la rencontre de lui-même, à la rencontre de l'autre, à la rencontre du tout autre ».
Compostelle Cordoue, dont ce nom bat le cœur de l'association. Alain Simonin, président de l'association.
Ce que nous avons à partir de là voulu faire, c'est aller à la rencontre des autres cultures, des autres religions, des autres convictions, et en marchant. Parce que marcher, c'est vraiment, c'est Abraham, c'est peut-être d'autres personnages, mais c'est vraiment un élan incroyable, c'est l'homme qui se met debout. Et en marchant, nous dialoguons, nous discutons. Souvent,
Comment on fait maintenant?
J'ai parfois employé le mot de confessionnal portatif parce que, en marchant, les gens disent des choses d'eux-mêmes très profondes. Et ça prend ensuite, lorsqu'on a fini la marche, ça c'est le dialogue, on a une rencontre assez particulière qu'on va vivre tout à l'heure où on se met en cercle et au centre du cercle, je fais venir des personnes qui me viennent à l'esprit. Et chacun dit son expérience personnelle qu'elle a vécue dans la marche. Et ceux qui sont autour, ça fait une résonance, à certains mots vont faire tilt. Et du coup, ils vont nous rejoindre au centre. Et il va y avoir un récit qui va se développer pendant une heure, qui est presque pour moi un peu l'image des récits anciens, peut-être dans la Bible et autres, c'était des témoins qui ont raconté oralement. Et nous, on fait la même chose. On raconte ce qu'on a vécu, ce n'est pas des opinions intellectuelles, c'est vraiment une expérience, le récit d'une expérience. Et ça, c'est le volet, je dirais, comprendre et nous relier les uns aux autres. À partir de la diversité, hein. C'est ça, qui n'est pas toujours facile, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a des fois des nœuds, comme on a fait le cercle tout à l'heure, il y a des nœuds qui relayaient les foulards. Et ces nœuds, j'ai souvent l'envie de dire que ce sont, à la fois ça relie, mais à la fois c'est quelque chose qui, les nœuds, qui peut aussi faire obstacle et qu'il faut oser vivre et regarder.
Ça va ?
Jean, où vis-tu ? Paris, non ?
Non, à Toulouse.
Ah, mais c'est bien, donc on va se revoir dans l'année.
Astrid, l'une des marcheuses.
Ah, bon, peut-être.
Pour aller marcher.
Voilà, Inch'Allah.
Oui, enfin, moi, je préfère à la grâce de Dieu, mais...
Vous nous rejoignez. Ah, magnifique.
C'est l'interreligieux, mais quand même, regardez nos invocations. Et puis voilà, et puis après, c'est justement pas de syncrétisme... Hors de question de dire qu'on a tous le même Dieu, tous la même religion, c'est tout sauf ça, quoi. Mmh. Au contraire, mais du coup, ça demande d'être quand même déjà construit dans la sienne. Et du coup, ben, ça explique aussi. Enfin, moi, j'ai toujours été un peu attirée par ça, mais je pense que c'est mieux de faire ça quand on est un peu plus âgé, qu'on est déjà. Enfin, c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis commencer par être. Parce que ça nous renvoie à la nôtre et parce que aussi, ça permet de voir où les rivières se sont séparées, pourquoi. Et d'accueillir l'autre dans cette dimension-là. Moi, je pense que le plan de Dieu est certainement aussi de nous voir, de se révéler différemment. Dans l'obéissance d'un musulman, qu'on a peut-être un peu oublié, dans l'attente d'un juif, ou dans l'incarnation d'un chrétien.
C'est super.
Compostelle Cordoue s'apparente donc plus à un chemin de rencontre et de dialogue qu'à une fusion. Alain Simonin.
Exactement, ça c'est très important parce que lorsqu'on a vécu, je vous donne un exemple avec les soufis à Tanger il y a déjà pas mal d'années, on était émerveillés par ces chants soufis dans les je ne sais plus comment on appelle ça, les petits temples. On a été accompagnés par des scouts musulmans. Et les chants soufis sont assez impressionnants. C'est des chants, une sorte de mélopée très profonde, répétitive. Mais les gens, tout d'un coup, et j'avais écrit un article un peu pour faire attention à ça, avaient une tendance à se fusionner en disant « Mon Dieu, comme c'est beau !» Et à oublier que dans chaque croyance, il y a du beau. Chez les chrétiens, chez les juifs, chez d'autres religions. Et même le Dalai Lama le dit, mais ne fusionnez pas avec nous. Le bouddhisme vient de Chine ou de l'Inde, je ne sais plus. Vous avez vous-même une foi, donc faisons connaissance, je crois que c'est ça, les uns des autres. Enrichissons-nous de ces valeurs qui sont souvent communes, mais ne nous amusons pas à ces pseudo-fusions qui donne rien. Le monde est divers, il doit rester divers, mais il doit se comprendre, on doit aller les uns vers les autres, je crois.
On dit pour vivre ensemble dans la fraternité et dans l'humanité, en humanité.
Oui, exactement. Il y a aussi des personnes qui sont athées ou en tout cas agnostiques, elles le disent. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses de ces personnes-là, comme je crois qu'elles ont appris aussi elles-mêmes. Je me souviens d'un athée qui me disait, mais écoute Alain, tu peux me parler un peu de la Trinité, j'arrive pas à comprendre ça. Alors bon, c'est un dogme, hein, c'est pas tout à fait un fondamental, mais quand
même. Il n'avait pas choisi le plus facile.
Non. Alors, ça nous oblige à nous débrouiller pour expliquer un peu qui on est, quoi.
Donc, si je résume, il y a quelque chose de cet esprit de la convivencia qui, comme vous dites, peut-être c'est une utopie, mais bon, quelque chose peut-être à laquelle vous essayez de tendre.
Oui, je crois que le bon mot, c'est une utopie en marche. Je crois que c'est ça. C'est vraiment une utopie, c'est un phare. Mais il est en marche, et pas seulement avec nous. Il y a plein d'autres personnes qui sont en marche vers ce vivre ensemble.
Un vivre ensemble d'autant plus difficile, peut-être d'autant plus utopique aujourd'hui en 2019, dans un monde qui a tendance à se replier, où les communautés, où les communautarismes sont de plus en plus exacerbés.
Exactement, et c'est hier ce que j'ai dit avec nos amis bouddhistes, j'ai posé la question aux moines, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qui se passe en Syrie, à Idlib maintenant? Moi j'ai des amis dont les familles sont massacrées, je le porte ça aussi moi, ça m'émeut terriblement, ça me met dans une sorte de stupeur. Donc effectivement, il ne faut jamais oublier ça, et nous marchons pas du tout dans l'ignorance de ce qui se passe dans le monde.
Donc une petite goutte d'eau, mais un immense espoir.
Oui, c'est ce que le frère bouddhiste disait, nous sommes une petite goutte d'eau dans l'océan.
Au fil de la marche, allant de l'un à l'autre, je perçois quelque chose d'une joie profonde, de ce presque indicible sur lequel Jacqueline sait mettre des mots.
Chemin de vie pour rencontrer les autres et s'unifier. Et donc la deuxième année que je participe à Compostelle-Cordoue, et avec, j'ai de suite été envoûtée par leur message, donc de marcher, de dialoguer, de comprendre. Et même personnellement, intérieurement, je dis marchons, parce qu'on est plus dans l'unité de pèlerins qui marchons, dialoguons. Moi, la chrétienne que je suis dit prions. Après, j'aime bien mettre le verbe réfléchissons, soit réfléchir le Dieu qu'on est allé chercher, qui nous habite, soit ceux qui sont justement athées ou humanistes, ils réfléchissent avec intelligence. Il y a un mot que j'aime rajouter, c'est œuvrons. Ne pas laisser rester dans la réflexion, œuvrons dans le monde. Voilà.
Il y aura un après, il y a ce chemin, mais ensuite la vie reprend et après.
Mais dans cette dimension de cette unité, de la richesse de notre humanité, du don, et du don qu'on reçoit tous les jours, et qui me permet de rendre grâce, parce que je ne peux pas vivre autrement. Je sais bien que je suis bousculée comme d'autres par les misères, les souffrances qui sont imposées à d'autres peuples ou à d'autres personnes en France. Mais quand on a ce rayon de soleil et ce sentiment de fraternité, voilà, on a l'œil, j'espère, mais jamais assez pour aller vers l'autre et dire qu'on est là aussi pour alléger, passer un moment difficile, traverser le pont ensemble. Et après, chacun sa route, chacun son chemin, comme je dis. Par respect pour l'autre aussi, qui n'a pas à se remémorer les périodes difficiles. Et hop, qui se relance dans la vie. Mais je pense que quand il y a ce geste de fraternité, qui peut être discret dans le respect de sa ligne.
Ça, c'est du harangue. Un poisson, je ne ferai que poisson.
C'est tous les jours comme ça?
Des salades qu'on prépare.
Et depuis 10 ans, du Maroc au Liban, en passant par la Bosnie, l'Italie, Israël, l'Espagne ou la Bretagne, une fois par an, des hommes et des femmes de toute confession ou sans confession aucune se retrouvent durant quelques jours pour marcher, dialoguer et se rencontrer. La marche de ce mois de juillet 2019 en Occitanie revêtait un caractère particulier. Pour la première fois, elle était intergénérationnelle. Des scouts musulmans de Toulouse et des scouts de France venus de régions parisiennes avaient rejoint le groupe de marcheurs. Des découvertes mutuelles et des rires.
Laura, moi j'ai découvert le bouddhisme parce que en fait je connaissais pas vraiment les religions à part le christianisme parce que nous on est scouts chrétiens. Et donc du coup j'ai découvert beaucoup de religions dont le bouddhisme qui m'a vraiment plu, le fait de méditer, de réfléchir, le fait de se dire que en fait on n'est qu'un grain de sable par rapport à tout le monde. Voilà.
Alors je m'appelle Déborah. Je fais partie des scouts et guides de France. Et durant cette semaine, qui va bientôt s'achever, j'ai découvert plusieurs lieux de culte et la religion aussi, les principes et les valeurs que celle-ci incombe. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le partage et le lien qu'on a, malgré nos différences. Parce qu'il y a des scouts musulmans, il y a des protestants, des juifs, des musulmans. Et malgré les différences, y a des liens, il y a des choses qu'on a en commun, comme le partage, le respect, la paix, l'amour. Et tout ça, on essaye de le travailler en communiquant lorsqu'on marche, ou pendant nos temps, comme tout à l'heure, nous étions en rond et chantions des musiques qui nous apprennent à respecter la nature, etc. Voilà.
Et puis le fait de marcher aussi, ça permet également de se rencontrer. La marche, on marche plus ou moins vite, on va de l'un à l'autre, et c'est propice à la rencontre.
C'est exactement, puisque justement, on a du temps, on a beaucoup de temps. Là, on marche pendant 2h30, ça permet de pouvoir communiquer, pas forcément avec les nôtres. Moi, hier, j'ai parlé avec des personnes âgées, avec des bouddhistes. Voilà, ça permet de se rencontrer.
Redouane, ce que j'ai découvert, je n'ai pas découvert grand chose.
Qu'est-ce que vous avez vécu alors ? Ou alors ce que vous avez vécu ?
Mais des moments de convivialité où on partage notre joie, notre enthousiasme et où on fait des rencontres et on échange. Et par exemple, notre expérience de vie à Toulouse ou à Paris, les psychologues qui vont avec. Et on rigole ensemble, on parle avec les personnes âgées aussi, ils nous partagent leur expérience de la vie, on se fait des délires, on chante, on rigole.
C'est la vie, tout simple.
Oui,
tout simple,
hein. Oui, la vie.
La grande fraternité scout, une réalité bien concrète de ce Compostelle Cordou, pour tous et pour Rania, secrétaire générale à un moment donné des scouts musulmans, une expérience vécue.
J'ai été très touchée par la cohésion, l'unité des jeunes scouts musulmans et scouts de France. Et ils ont vécu tous ces moments dans le service, le partage, la joie. Ils nous ont servi et ils ont été vraiment exemplaires. Et pour moi, ils représentent cette famille humaine de demain. Dans cette fraternité et de partage, voilà. Au-delà de tout, au-delà de toutes les différences. Et je les remercie beaucoup. Et je leur souhaite que du bonheur, parce que l'avenir est pour eux.
Et par eux.
Et par eux. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous.
La route est longue ce jour-là, et en ces derniers jours de juillet, la canicule rend la marche plus pesante. Les cloches de l'abbaye d'Incalcate annoncent fraîcheur et repos. Et pour guider les marcheurs, quelques moines se sont joints à la route de ce dernier jour. Parmi eux, frère Daniel, ancien coordinateur pour le dialogue interreligieux monastique. Il nous partage son expérience.
Donc c'est une façon de s'immerger dans une autre tradition, un autre continent, un autre lieu, une autre culture, pour découvrir aussi, grâce à ça, quelle est notre culture et quel est notre message et notre foi. Parce que la rencontre de l'autre...
Dévoile la nôtre, c'est
dévoile pas... la nôtre, oui, nous renvoie, sans cesse, ça nous permet de revisiter notre propre foi, notre culture. Donc pour ça, c'est toujours très, très enrichissant et très dépouillant aussi, parce que...
Ça bouscule, ça interroge aussi.
Ça bouscule, oui, mais ça nous fait sortir de nous-mêmes, alors que On est, en gros, on est dans un train-train habituel, continuel. Et puis là, tout d'un coup, on se trouve étranger, accueilli certes, mais étranger dans un monde étrange pour nous. Et donc, il faut savoir réagir et accepter la différence et puis s'en pénétrer jusqu'à reconnaître un visage de Dieu dans l'autre, même s'il le nomme autrement. Mais c'est toujours une image de Dieu et du Christ, en l'occurrence, qui est présent dans l'autre croyant, qui est aussi dans une démarche de conversion, qui est une démarche de recherche intense de l'ultime. Et c'est une grâce.
Et au terme de ces 4 jours, la chaîne des foulards s'est dénouée. Chacun a repris le sien, chacun a repris sa route. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ailleurs ou avec d'autres, une autre se refermera, peut-être. Parce qu'en quittant leur repère familier, en acceptant de se dépouiller du confort et de leurs habitudes et des idées reçues, tous les marcheurs de Compostelle-Cordoue ont donné leur confiance et se sont ouverts à l'inattendu et à l'inconnu.